Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule du centre de ressources Capsule Vet, menée en partenariat avec MSD Santé Animale. Notre ambition avec les autres intervenants, c'est de vous apporter dans ces moments un peu compliqués des éléments de réflexion, des outils concrets, des partages d'expériences, des solutions pratiques qui pourraient vous aider à rebooster, booster votre équipe, votre activité, peut-être votre motivation d'ailleurs et votre entreprise. Alors, comme toutes les capsules de Capsule Vet, vous aurez la possibilité de les écouter en podcast ou également de les visualiser sur la plateforme Capsule Vet. Je vais aujourd'hui parler dans cette capsule des fondamentaux et des ingrédients de l'équipe. On en parle souvent, mais qu'est-ce que c'est qu'une équipe? Comment elle peut se construire dans une clinique vétérinaire en particulier? Alors, la première notion, c'est qu'on parle d'équipe parce que l'équipe est une force, d'accord? C'est une donnée extrêmement importante. La force collective de l'équipe est supérieure à la somme des forces individuelles. Cette fameuse équation que 1 plus 1 est supérieur à 2 grâce à l'équipe, puisque très clairement, l'équipe, ça commence déjà à deux personnes, hein, un vétérinaire et une ASV, c'est déjà un début d'équipe. Il y a bien évidemment des équipes qui sont beaucoup plus grandes que ça dans les cliniques vétérinaires pour certains, mais c'est important de comprendre que il y a quelque chose qui va subjuguer un tout petit peu les différentes personnalités, une espèce de ce qu'on appelle la grinta, hein, qui va permettre d'avoir accès à une dimension supérieure que la simple addition des talents au sein de l'entreprise. Et ça se travaille, c'est pas inné, hein, vous savez très bien que les meilleurs éléments, les meilleurs joueurs mis ensemble et achetés parfois à prix d'or, ne font pas systématiquement et automatiquement la meilleure équipe. Donc ça demande effectivement une construction. Après, la deuxième dimension, c'est que souvent on me dit dans les cliniques vétérinaires, oh, ici c'est bien, c'est comme une famille, c'est comme une seconde famille pour nous. Alors ce qui est un côté très positif, hein, puisqu'il y a plein de choses intéressantes dans une famille, c'est bien mieux qu'un groupe où chacun joue tout seul dans son coin, donc c'est déjà intéressant. Mais par contre, la dimension de l'équipe, elle apporte encore quelque chose, et j'essaie de vous le démontrer par rapport à cette notion de famille, qui est une bonne base, mais qui permettrait peut-être d'aller un tout petit peu plus loin. Alors, parce qu'il y a un parallèle complet à faire entre la famille et l'équipe, avec des vrais points communs qu'on retrouve des deux côtés. Il y a un passé commun, voilà, les histoires de famille qu'on raconte avec les anciens, etc., etc. Et dans une équipe, il y a les histoires également qu'on évoque, un passé commun, hein. Une mémoire collective au niveau de l'équipe. Ceux qui ont connu l'épopée des Verts en 76 savent qu'on en parle encore dans les campagnes, bien sûr. Donc, un passé commun, ça réunit, qu'on retrouve donc dans la famille et dans l'équipe. Une notion d'appartenance qui est très importante. On appartient à une famille, hein, d'accord? On a un nom, on a des valeurs. Avant, on avait des blasons au niveau de l'équipe. On a des rituels de famille, le fait de se retrouver à Noël, le fait de se retrouver pour les communions, les baptêmes, les mariages, etc., etc. Et on a exactement la même chose dans une équipe, un sentiment d'appartenance, je dirais avec un logo, un nom parfois peut-être au niveau de votre équipe, de votre clinique, des rituels et un maillot, hein, puisque c'est vraiment quelque chose qui matérialise cette appartenance au niveau de l'équipe et des valeurs qu'on peut retrouver également. Et puis dans les deux cas, on a un effectif variable, il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent, aussi bien dans une famille que dans une équipe. Et après, il y a deux notions qu'on retrouve un tout petit peu de chaque côté, mais de manière très très différente. Dans une famille, il y a un chef, d'accord, un chef de famille, quelqu'un qui va avoir un peu autorité sur la famille. Et dans une famille, on est dans une relation entre les individus qui est bien souvent une relation d'éducation, une relation parents-enfants pour ceux qui connaissent un peu l'analyse transactionnelle. Donc, ce besoin d'avoir quelque chose qui va être assez descendant en fait entre le chef et ce système d'éducation. Alors que on retrouve ça dans une équipe, mais de manière complètement différente, et c'est important de bien le mentionner. Dans une équipe, on a un leader, on n'a pas un chef, d'accord? Il n'y a personne qui décide contre les autres, d'accord? Le leader, c'est celui, on va développer cette notion-là qui est très 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 importante. Le leader, c'est le capitaine, c'est celui qui va être capable de pousser un coup de gueulante s'il y a besoin sur le terrain, mais également de féliciter, de récompenser les équipiers, d'accord? Et puis, je dirais que dans la relation entre les individus, on est dans une relation où on essaye de se développer les uns les autres, de travailler ensemble pour faire grandir l'autre, et donc on est dans une relation qui est adulte à adulte, et on a quelque chose qui est beaucoup plus horizontal et qui n'est surtout pas vertical. Donc on a plein de parallèles communs entre la famille et l'équipe. Par contre, il y a des choses qu'il y a dans l'équipe et qu'il n'y a pas dans la famille, d'accord? Deux choses essentielles, c'est dans une équipe, il y a des objectifs communs. Il n'y a pas d'équipe s'il n'y a pas d'objectif. Une équipe qui rentre sur un terrain, c'est forcément un objectif de gagner, de se qualifier, peut-être de bien jouer, peut-être de prendre du plaisir, hein. C'est pas forcément quelque chose de très très compliqué, mais c'est essentiel. Il n'y a pas d'objectif commun dans une famille, d'accord? Et la deuxième chose qui est importante dans l'équipe, c'est qu'il y a des règles de fonctionnement, il y a des responsabilités qui sont clairement définies, de savoir qui fait quoi dans quelle dimension. Il y a un gardien de but, il y a quelqu'un qui va tirer les pénaltys, éventuellement qui peut jouer numéro 9, numéro 2, prenez le sport que vous voulez, le sport collectif, vous avez exactement ces choses-là également dans l'équipe. Donc la dimension de l'équipe est supérieure à la dimension de la famille, en particulier par rapport à la notion de motivation et d'objectif commun. Les quatre fondamentaux de l'équipe, premier principe, c'est le leader. Voilà. Et cette notion de leader, elle est toujours assez difficile dans les cliniques vétérinaires où il y a plusieurs associés, personne n'a le sentiment d'être leader par rapport aux autres. Intégrez bien que ce leader-là, c'est pas lui qui se décide leader. Il est reconnu comme leader, c'est un talent, un charisme qui est important dans n'importe quelle équipe. Le leader, il est reconnu s'il est empathique, d'accord, s'il s'intéresse vraiment concrètement aux équipiers, s'il est visionnaire, il sait un tout petit peu plus que les autres dans quelle direction il va, et bien sûr, s'il ne décide pas et s'il ne fait pas tout seul, d'accord, c'est pas sa responsabilité. Sa responsabilité de leader et surtout pas de chef, c'est de prendre la vie de tout le monde et d'en faire quelque chose qui va être positif pour l'intérêt général. Deuxième principe, c'est l'unicité. Et là, c'est assez régulièrement compliqué dans une équipe vétérinaire à plusieurs associés, d'accord ? L'équipe est une, d'accord ? Et elle ne parle que d'une seule et même voix. Ça veut dire que quand la décision est prise au niveau des associés, et on va en reparler, tout le monde parle de la même voix, tout le monde porte le même discours par rapport à ça. Troisième principe de l'équipe, c'est la diversité. Oui, on est tous différents. Ça serait sûrement plus simple si on était des clones, mais ça serait extrêmement triste. Et puis, ça ne ferait pas d'avancer finalement, puisqu'on a besoin de la confrontation et d'avoir une intelligence collective. Donc, cette diversité, il faut au contraire l'entretenir, d'accord ? C'est une base pour avoir une équipe riche, d'accord ? Et elle va permettre surtout de distribuer des rôles différents, des responsabilités différentes à chaque équipier. Il y en a un qui a un peu plus de plaisir à faire du management, et bien donc autant lui confier le management. Il y en a un autre qui préfère faire du tableau Excel tout seul dans son coin pour faire des plannings, autant utiliser cette personne-là pour faire du planning. Et si vous avez des ASV, bien sûr, il y en a qui préfèrent être dans l'accueil, recevoir les clients, discuter, et puis d'autres qui préfèrent être derrière, à faire de la chirurgie. Donc voilà, la diversité, on s'appuie dessus, bien sûr, pour pouvoir distribuer ces fameux rôles et responsabilités. Et puis le quatrième principe, c'est les objectifs communs. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas d'objectif. Et pourquoi ? Parce que l'objectif est à la base de la motivation. Ceux qui me connaissent savent que je parle régulièrement de cette notion-là et c'est très très important. Un objectif, quand on se le fixe, ça crée une émotion. On n'est jamais certain absolument à 100% d'atteindre cet objectif-là. Et donc, je vais générer une émotion. Et émotion, motivation, moteur, d'accord, c'est toute la même racine latine, d'accord, qui est motio. Et donc, s'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de motivation. C'est extrêmement intéressant et important à considérer. Alors, juste un exemple sur les ingrédients qui permettent, par exemple, de travailler sur l'unicité de l'équipe, hein, d'accord, sur ce sentiment d'appartenance qui est vraiment quelque chose de très très fort au niveau d'une équipe et qui mérite d'être travaillé au niveau d'une clinique vétérinaire parce que par expérience, il y a pas mal de petites choses qui sont à améliorer de mon point de vue, en particulier pour l'accueil des nouveaux arrivants, Veto et ASV, d'accord. C'est la mise à jour du site internet en temps réel, combien de fois la personne est arrivée depuis 3, 4 mois, 5 mois, et puis on n'a toujours pas mis à jour le site internet puisqu'on n'a pas eu le temps, quoi. Mais pensez bien que c'est compliqué pour cette personne-là. Je travaille dans cette clinique-là, mais est-ce que j'appartiens vraiment à l'équipe ? Il y a un certain nombre de choses auxquelles je n'ai pas droit encore aujourd'hui. Je ne suis pas sur le site internet, j'ai pas ma photo, j'ai pas ma blouse logotée avec le logo de la clinique, j'ai pas de badge particulièrement, j'ai pas eu de communication sur les pages Facebook pour annoncer ma venue vis-à-vis des clients, je ne suis pas toujours sur l'écran de la salle d'attente, je n'apparais pas. C'est toutes des choses qui peuvent vous paraître relativement futiles pour vous, mais pensez bien que pour une personne, c'est extrêmement important. Et retenez que dans les transferts, dans une équipe de sport collectif, la première chose que l'on fait, c'est qu'on fait poser le nouveau joueur avec le maillot de l'équipe, d'accord ? Et bien souvent, ça arrive deux ou trois semaines, mois, avant de pouvoir vraiment jouer dans cette équipe-là, quoi. Donc le port du maillot et le nom du maillot, le nom sur son maillot est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc méfiez-vous de ce genre de choses, travaillez ça, puisque je dirais ça va permettre de développer le sentiment d'appartenance, prévoir un parcours d'intégration, un pot d'accueil, remettre le livret d'accueil de la clinique à la personne qui arrive, et puis si vous allez jusqu'à une boîte mail pro individuelle avec le nom de domaine de la clinique, je l'ouvre évidemment immédiatement au niveau de ces nouveaux arrivants, ça leur permet de vraiment être intégrés dans l'équipe. Alors, quels sont les signes que l'on peut constater visibles d'un mauvais fonctionnement en équipe ? Alors, j'espère qu'il n'y en a pas chez vous, mais peut-être que ça vous permettra d'identifier un peu où est-ce que vous vous positionnez en termes d'équipe. Le premier, c'est l'absence de prise de décision collective claire, d'accord ? Soit il n'y a pas de prise de décision, on fait beaucoup de réunions d'associés où on parle, on discute, on parle de plein de choses, mais finalement, on n'a pas pris de décision après 3 ou 4 heures de réunion, d'accord ? Deuxième possibilité, c'est qu'on a pris une décision, mais finalement, personne ne l'a intégrée de la même manière. Donc peut-être chacun aura un discours un petit peu différent s'il faut transférer cette décision au niveau des salariés en particulier, d'accord ? Donc assurez-vous quand vous prenez une décision que tous les associés moitié aient bien compris la même chose. Et puis, de temps en temps aussi, on arrive à voir, par manque d'unicité de parole, eh bien, un consensus qui a été difficile et puis qui se traduit par, finalement, quelque chose qui n'est pas respecté, la décision qu'on a prise. Certains ne l'appliquent pas en tant que, en tant qu'associé, en tant que dirigeant. Et donc, forcément, ça aura un impact négatif au niveau de l'équipe. Le deuxième signe, c'est la mauvaise communication interne. Alors, c'est le plus important en fréquence, hein. Mais très clairement, c'est le deuxième qui arrive parce que la prise de décision est toujours avant la notion de communication de la décision, d'accord ? Elle se traduit surtout par des non-dits. Voilà, il y a énormément de non-dits dans une clinique, que ce soit entre salariés et associés, entre associés eux-mêmes, entre donc les dirigeants. Donc voilà, comment on se dit les choses, comment on arrive à se dire les choses, quels sont les ragots et les rumeurs que l'on peut colporter tous individuellement dans une clinique. Si on a ça, c'est qu'on n'est pas dans un bon fonctionnement en équipe. La formation différente d'un équipier à l'autre. Et puis, ce qui arrive aussi de temps en temps, c'est de communiquer négativement sur un équipier, peut-être plutôt un salarié, devant les clients ou devant d'autres membres de l'équipe. C'est extrêmement destructeur pour, bien sûr, l'esprit d'équipe. Donc, le troisième signe de mauvais fonctionnement en équipe, c'est l'absence de collaboration et de bienveillance. Il ne peut pas y avoir d'équipe s'il n'y a pas de bienveillance, d'accord ? J'ai besoin d'aider mon équipier. S'il a besoin d'un coup de main, je serai là pour lui donner, parce que je sais aussi que, bien sûr, ça sera réciproque. Et quand moi, j'aurai besoin, lui, il sera là pour me donner un coup de main. L'absence de respect pour les personnes, d'accord ? Est-ce qu'elles sont ? Je peux très bien être assez... faire du management et avoir un aspect assez critique sur ce que font les personnes, sur leur comportement, mais jamais sur ce qu'elles sont. Et si je commence à attaquer les personnes, eh bien forcément, ça va être destructeur et je ne serai pas du tout dans un fonctionnement en équipe. Et puis des tensions visibles entre les personnes, d'accord, des jeux de pouvoir, des colères, des portes qui claquent, une non-gestion des émotions. Donc toutes ces tensions-là sont bien révélatrices que ça fonctionne pas comme il faut en équipe. Le fait de rechercher un bouc émissaire, d'avoir quelqu'un sur lequel on tape, on se décharge toujours sur la même personne, d'accord. Voilà, ben, je dirais très clairement, ça aussi, c'est pas un fonctionnement normal en équipe. Et ça se traduit très souvent par un turnover important. Et donc, quand vous avez un certain nombre de salariés qui quittent l'entreprise, même si vous donnent d'autres raisons, interrogez-vous lorsque ce nombre est important sur le fonctionnement que vous pouvez avoir en équipe. Alors, comment, à partir de là, on construit une équipe? Cinq grandes étapes clés assez rapidement. La première fondamentale, c'est la confiance, quoi. Voilà, on part d'abord avant tout de la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y aura jamais d'équipe. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a jamais de bonnes relations interpersonnelles. Cette confiance, elle est la confiance en soi d'abord, importante. Comment je peux oser être authentique? Comment j'exprime clairement ce que je ressens? Et que je sois associé ou salarié, je me dois quelque part d'être suffisamment en confiance, d'avoir suffisamment de confiance en moi pour pouvoir dire les choses. Et de toute façon, si j'ai pas de confiance en moi, c'est que les autres ne me permettent pas de pouvoir m'exprimer, c'est que j'ai une certaine angoisse, inquiétude, anxiété par rapport au comportement de mes équipiers vis-à-vis de ce que je peux ressentir. Donc c'est pour ça que j'ai pas assez de confiance en moi, c'est qu'elle est aussi liée forcément à la confiance en l'autre, d'accord ? Je me sens respecté par l'autre dans mes différences, je suis sûr de la bienveillance de l'autre à mon égard, et donc je peux donner ma confiance à l'autre, et lui aura tendance à me la donner en retour. La troisième notion, c'est que j'ai confiance dans l'équipe, d'accord ? C'est parce que je vais développer la générosité dans l'équipe, je vais proposer de l'aide en permanence, je vais oser proposer de l'aide, et je vais oser demander de l'aide, ce qu'on fait relativement rarement, mais si on ose demander de l'aide, c'est parce qu'on a confiance en l'autre. Le deuxième niveau ensuite, après, c'est la confrontation. C'est normal dans une équipe d'avoir de la confrontation. Elle est normale, elle est bénéfique, on est tous différents, on a des idées différentes, et c'est souvent avec deux idées qu'on arrive à en faire différentes, qu'on arrive à en faire une bonne. Ce qui est important, c'est que donc la confrontation, elle est normale. Ce qui est important, c'est que quand je viens dans une réunion avec l'envie de forcément quelque chose qui va conduire à la confrontation, eh bien je cherche en permanence un consensus. Je dois arriver à sortir de la réunion avec une solution qui sera acceptable par tout le monde. Donc les réunions, elles peuvent être animées et saines. Au contraire, quand les gens ne s'expriment pas, c'est des réunions qui sont extrêmement plan-plan et qui vont être sans beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je sollicite les échanges d'idées et bien sûr, je n'attaque pas les personnes. Donc, c'est normal d'avoir aussi à réguler une équipe. Hein, c'est la preuve qu'elle fonctionne. C'est tout à fait logique d'avoir des émotions à réguler au sein d'une équipe. Troisième niveau, c'est l'engagement, d'accord ? L'engagement des équipiers. Ils sont impliqués dans leur travail, ils sont engagés, j'ai travaillé leur motivation, d'accord ? Ils peuvent être impliqués, bien sûr, dans des projets, je leur laisse de l'autonomie, et donc ils ont une prise d'initiative qui est facilitée, un droit à l'erreur que je leur accorde, d'accord ? Et ensuite, bien évidemment, une notion qui est très importante, sur laquelle, là aussi, il y a beaucoup à travailler au niveau des cliniques vétérinaires, c'est la reconnaissance de cet engagement, la reconnaissance des apports qu'il peut faire, pas forcément la reconnaissance du résultat d'ailleurs, hein, mais j'irais vraiment déjà la reconnaissance d'avoir essayé de mettre en place des nouvelles choses, d'avoir essayé de développer des nouveaux services, toutes ces choses-là, même si ce n'est pas parfait d'emblée, ce n'est pas très grave, je vais reconnaître cette envie d'essayer, c'est comme ça que ça fera grandir l'équipe. Quatrième notion, ensuite, petit à petit, une fois qu'on a eu atteint les trois premières, d'accord, c'est la responsabilisation des individus. Donc, je respecte les échéances et les personnes. Quand je travaille dans un projet, je sais que j'ai un certain nombre de choses à faire et à rendre en temps et en heure. Je respecte ce que j'ai dit et ce sur quoi je me suis engagé parce que ça implique évidemment d'autres personnes dans l'équipe, d'accord, des salariés ou des associés, d'accord. Donc, je respecte ce que j'ai dit parce que ça me permettra de respecter les personnes avec qui je travaille. Et ça veut dire aussi, dans cette notion de responsabilisation, pour un associé, ça veut dire que je suis capable de mettre la pression sur des individus moins engagés que d'autres. Je reconnais, et en partant sur la reconnaissance, c'est pour ça que ça ne peut se construire qu'après avoir travaillé la confiance et la reconnaissance, eh bien, je vais reconnaître l'engagement de certains par rapport à d'autres et peut-être remettre un petit peu de pression sur ceux qui sont moins engagés. Si je ne le fais pas, et on essaye souvent de ne pas le faire par sympathie, par gentillesse, je vais créer en fait quelque chose qui est très destructeur d'esprit d'équipe, c'est l'injustice. Quoi, voilà. Et donc, il y a besoin d'être juste et donc de mettre la même pression sur tout le monde, reconnaître ceux qui sont très engagés et reconnaître aussi de manière négative ceux qui ne sont pas assez engagés. Et puis, dernier point hyper important, je suis concentré sur le résultat global de l'équipe, d'accord. Je suis centré sur le résultat, sur les réalisations, sur les atteintes d'objectifs de l'équipe, et je célèbre ces résultats et ces objectifs atteints, d'accord, puisque ça va être extrêmement moteur pour l'ensemble des équipiers. Ça permet de bien matérialiser le résultat au niveau de l'équipe. Donc voilà, cinq étapes qui sont à construire progressivement, d'accord, et qui sont importantes à prendre en considération pour construire l'équipe avec des outils qui existent derrière sur comment on travaille la confiance, quel est le niveau de confiance qu'on a entre associés, qu'est-ce qui pose problème dans cette confiance, quel est le niveau de confiance que j'ai en tant que salarié vis-à-vis de mes employeurs, etc., etc. Donc, c'est tout ça. Derrière ça, il y a bien sûr des outils pour travailler. Alors, en route vers l'esprit d'équipe, oui, bien sûr, je vous le souhaite, d'accord. Et c'est avant tout s'appuyer sur la culture du nous, à la place de la culture du jeu. Et voilà, je vous encourage à écouter quand des vétérinaires que vous connaissez parlent de leur clinique, d'accord. Est-ce qu'ils disent nous, est-ce qu'ils disent je dans ma clinique ou dans notre clinique? Voilà, c'est des petits éléments qui sont extrêmement importants et que je suis toujours friand d'écouter quand je discute avec des vétos pour voir un tout petit peu la notion d'équipe qu'il peut y avoir chez eux. Passer de qu'est-ce que j'y gagne, d'accord, à qu'est-ce que cela nous apporte. Et c'est vraiment extrêmement important de se mettre dans cette logique-là. Et ça veut dire pour un certain nombre de personnes, d'associés, d'accord, de travailler un tout petit peu sur soi, de replier un peu son ego, d'être dans ce qu'on appelle la décroissance personnelle, puisque l'intérêt de l'équipe va toujours primer par rapport à mon propre intérêt. Et si je suis à défendre mon propre intérêt et qu'il va plutôt à l'encontre de l'intérêt de l'équipe, forcément, j'ai des chances que ça finisse par mal se passer. Ça veut dire travailler son humilité, ce qu'on voit relativement peu aujourd'hui à la télévision avec les grands pontes en médecine humaine, d'accord. Et je dirais qu'on a une certaine avance par rapport à eux, mais je pense qu'on peut aussi travailler encore cet aspect-là parce que j'ai besoin de travailler en équipe. Et pour finir, je me permets d'insister sur le fait que l'équipe, elle est au sens large, elle devrait être l'équipe de l'ensemble de la clinique, mais il ne peut pas y avoir d'équipe s'il n'y a pas de collectif d'associés forts, d'accord. Et ça, c'est vraiment un message extrêmement important. L'équipe, c'est un fruit. S'il n'y a pas de noyau de dirigeants, il n'y aura pas d'équipe, il n'y aura pas de fruit. Ça, c'est une certitude, d'accord. Ça commence dans le processus de cohésion interne par la connaissance des dirigeants, la connaissance de chacun d'eux, d'accord, un peu de développement personnel, la connaissance de l'autre, très importante, ensuite la confiance qui reste quelque chose qui est un élément fondateur, un élément de base de la construction de l'équipe, la confiance qu'ils ont entre eux dans les dirigeants. Après, bien sûr, ça permet de travailler la cohésion des dirigeants, et après, et seulement après, on pourra travailler la cohésion de l'équipe et la cohésion de la clinique et de l'entreprise. Donc voilà, la transformation organisationnelle commence par la transformation personnelle des dirigeants. Ça commence toujours par le travail sur soi au niveau des associés. Cette phrase, elle est de Richard Barrett, qui a beaucoup travaillé sur les organisations et les organisations performantes en particulier. C'est extrêmement important de vraiment s'appuyer sur un collectif d'associés forts, unis, pour pouvoir envisager une équipe ensuite plus largement au niveau de votre ligne vétérinaire. Alors au niveau des points clés que je vous encourage peut-être à garder en tête, c'est que l'esprit d'équipe débute nécessairement par un collectif d'associés forts et soudés, je viens de le dire, j'insiste. Le collectif d'associés forts et soudés, lui, commence lui par un travail personnel de chacun des associés. Souvent, les cliniques m'appellent en me disant « il faudrait peut-être travailler sur l'organisation parce que ça ne se passe pas très très bien ». Et 9 fois sur 10, je dirais, eh bien finalement, il y a besoin de travailler sur le collectif d'associés, comment sont prises les décisions, comment elles sont appliquées, comment elles sont respectées, comment elles sont communiquées. Et en fait, l'organisation, elle va être largement facilitée à partir du moment où il y a un collectif d'associés forts. Donc, le collectif d'associés forts passe évidemment par un travail personnel de chacun des associés. Chacun est une partie du problème et chacun a besoin de travailler sur lui pour développer l'équipe. Après, je vous l'ai dit, il existe des outils et ça, c'est vraiment un message important. Il y a toujours des choses à faire et à essayer d'améliorer au niveau d'une équipe. Il n'y a qu'une condition sine qua non qui fait que ça pourra marcher ou ne pourra pas marcher, c'est d'avoir l'envie de chacun des individus de l'équipe. S'il y a une personne qui n'a pas envie de faire évoluer sa propre personnalité, sa propre personne, son propre comportement, le comportement de l'équipe, ça plantera la totalité de l'équipe. Et je vous l'ai dit, j'insiste là-dessus, je finis justement là-dessus, sur le fait que d'avoir un leader dans une équipe, c'est une chance. Soyez heureux d'avoir un leader. S'il n'y en a pas, essayer de voir comment on pourrait peut-être identifier ce leader-là, comment ce leader a beaucoup de responsabilités, beaucoup d'énergie à mettre au service de l'équipe. Et donc, c'est important d'identifier, de travailler son leadership pour celui qui est reconnu comme le leader. Et je vous dis, c'est une chance dans une clinique vétérinaire. Alors en complément, dans Capsule Vet, vous retrouverez un outil qui est une grille d'évaluation de votre fonctionnement en équipe, l'outil et puis un lexique. Et puis une vidéo que j'aime beaucoup qui est la scène finale du cercle des poètes disparus, où il y a très bien la différence entre un chef qui aboie, qui essaye de faire appliquer les choses et qui n'est absolument pas écouté, la différence avec un leader, le professeur Keating, qui s'en va et qui, sans dire un seul mot, va obtenir beaucoup de son équipe. Voilà, merci à tous pour votre écoute. À très bientôt sur d'autres capsules de Capsule Vet. Et je vous encourage bien sûr à regarder aussi les capsules des autres intervenants et celles de Pierre-Marie Cadeau sur les ressources humaines, pour ceux qui sont intéressés par cette notion-là. À bientôt.